Le cancer de la prostate est dû à une présence des cellules cancéreuses qui se multiplient de façon incontrôlée dans la prostate en France. C'est le cancer le plus fréquent chez l'homme. On en parle aujourd'hui avec Michel Witkock. Bonjour.
Bonjour.
Anesthésiste, réanimateur à la retraite et patient opéré de la prostate. Michel Wassner, médecin sur les lieux. Bonjour.
Bonjour à tous.
Georges Tarot, patient opéré de la prostate. Bonjour.
Bonjour.
François Duliège, patient opéré également de la prostate. Bonjour.
Bonjour.
François Duliège, tu es à l'initiative de cette interview. Pourquoi voulais-tu donner des informations sur le cancer de la prostate ?
Eh bien, depuis l'âge de 50 ans, je fais des diagnostics de dosage de PSA pour détecter ce cancer. Il y a 18 mois, les choses se sont accélérées et en allant voir un urologue, j'ai constaté que j'avais un cancer en cours de développement. 9 mois après, quand l'opération a été terminée, c'est-à-dire que l'ablation de ma prostate a été réalisée, l'analyse de cette prostate a montré qu'elle était complètement cancéreuse et que certaines cellules avaient commencé à sortir de la prostate. Ce qui veut dire, en français dans le texte, que si j'avais attendu un an de plus, je risquais fortement d'avoir des métastases, c'est-à-dire un cancer à ce moment-là très difficilement soignable. Ça a été pour moi un choc et j'ai commencé à parler autour de moi sur l'île aux gens de 50, 60, 70 ans, dans ma tranche d'âge, on va dire, de l'importance de détecter ce cancer. Et j'ai réalisé que beaucoup d'hommes de la tranche 50, 70 ans ne savaient même pas ce que c'était qu'un dosage de PSA. Et donc, je fais cette émission de façon à diffuser le plus largement possible l'intérêt de se protéger contre ce risque.
Donc, c'est quoi un dosage de PSA ?
Le PSA, c'est une enzyme qui est fabriquée par la prostate. Donc, il faut savoir que la prostate, c'est une glande qui se trouve sous la vessie, qui, chez un homme adulte, fait la taille d'une châtaigne, on va dire. Et à partir de 50 ans, cette prostate a tendance à grossir de manière naturelle, physiologique. Donc le rôle de la prostate, c'est de sécréter le liquide séminal qui rentre dans la composition du sperme, tout simplement. C'est une glande qui ne sécrète pas d'hormones, qui n'a pas de rôle hormonal, mais qui est régulée par la sécrétion de testostérone qui, elle, est assurée par les testicules. Et donc le PSA, c'est une des parties finalement de ce liquide séminal et on s'aperçoit que le dosage du PSA, qui est une prise de sang, donc qui se fait dans le sang, est proportionnel un petit peu à la taille de la prostate, donc il va avoir tendance à augmenter avec l'âge. Et dans le cadre d'un cancer où une partie des cellules se développe effectivement de manière anarchique, elles se mettent à produire de manière très importante ce PSA et donc son taux va augmenter plus rapidement et de manière très importante dans le sang. Donc c'est un test qui permet de diagnostiquer de manière, ou en tout cas de suspecter de manière précoce un cancer de la prostate éventuel.
Ce dépistage de PSA est-il fiable à 100%, Michel Wassner ?
Pour répondre à la question, dans le cadre de, on va dire 95% des cancers de la prostate sont de ce type-là, donc sécrètes, ou en tout cas peuvent être détectées grâce au PSA. Il y a toujours une partie des cancers de la prostate qui y échappent, mais c'est extrêmement rare et c'est des situations très particulières. Maintenant, le taux de PSA, il doit être contextualisé en fonction de l'âge, en fonction de plusieurs paramètres, aussi en fonction de la cinétique d'évolution, la rapidité à laquelle il monte. Mais on sait que s'il y a un taux qui est élevé, en tout cas, il faut s'en préoccuper, il faut le suivre, éventuellement faire des examens. Voilà. Mais c'est un reflet fiable, effectivement, dans le cadre d'un cancer de la prostate, c'est quasiment systématique.
C'est pas à 100%, c'est presque 100%, c'est ce que vous nous dites.
C'est presque 100%, après le reste, c'est jamais du 100%, la médecine, voilà, y a des cas particuliers. Le cancer de la prostate, c'est quelque chose qui n'a pas forcément de symptômes. Spécifique, j'entends, parce que je vous disais tout à l'heure que la prostate, elle grossit à partir de l'âge de 50 ans et elle peut entraîner des signes au niveau urinaire, besoin plus fréquent d'aller uriner, on arrive moins à se retenir, le jet est moins bon, etc. On se lève la nuit. Tout ça, c'est des symptômes qui peuvent se retrouver à la fois dans l'hypertrophie bénigne, comme on appelle le prostate, mais également dans le cancer de la prostate. Donc, on peut difficilement faire la part des choses juste sur l'interrogatoire. Après, on peut s'aider d'un examen qui s'appelle le toucher rectal, donc c'est d'aller palper la prostate directement. Ça peut aussi donner des renseignements. Si on sent quelque chose de louche, on va dire, c'est pareil, il faut aller explorer. Et c'est ces deux choses-là combinées qui permettent d'avoir une petite idée du risque, tout en sachant que le toucher rectal, ce n'est pas du 100%. Et souvent, maintenant, en plus, il y a des nouvelles techniques qui permettent de diagnostiquer le cancer de la prostate, notamment l'IRM, qui sont à faire rapidement, on va dire.
Georges Tarot, patient opéré de la prostate, votre histoire, c'est un petit peu la même que François Duliège ?
Oui, exactement. Pendant plusieurs années, je faisais un contrôle du PSA.
Vous avez commencé à quel âge ce contrôle du PSA ?
Je ne saurais pas dire, mais entre 50 et 60 ans. C'est sur les conseils de mon médecin traitant. Je dois dire qu'au préalable, je ne m'étais jamais trop posé de questions sur le sujet. J'ai fait confiance à mon médecin traitant et donc régulièrement, je faisais des tests sanguins tous les ans jusqu'au jour où le taux a augmenté lentement mais régulièrement. D'une fois sur l'autre, c'était toujours un peu plus. Et puis, au final, je suis arrivé à un stade où il fallait s'en inquiéter. Et donc, j'ai subi des prélèvements, ainsi que, suite au prélèvement, un IRM. Et à partir de là, il a été constaté qu'il y avait des tumeurs qui étaient en développement. Et évidemment, quand on apprend une chose comme ça, c'est un choc. Et
vous êtes dit quoi, si c'est pas trop indiscret?
Je me suis dit, me voilà. Je pensais que le cancer c'était pour les autres, c'était pas pour moi, quoi.
Ça arrive chez les autres, quoi.
Mais oui.
Mais en fait non.
Et non. Et donc ça m'a un peu perturbé, je dois dire. Et au final, après réflexion et après discussion avec l'urologue, vu l'état de développement qui était quand même très faible, on a décidé d'attendre. Et régulièrement, pendant 5 ans, je passais un IRM pour voir l'évolution, si évolution il y avait. Et il s'est avéré que pendant 5 ans, ça n'a pas bougé. Et puis, subitement, sans savoir trop pourquoi, le développement a été important. Et donc, il a fallu prendre une décision. Et voilà.
Michel Wilcock, comment s'explique que le cancer de M. Tarot n'a pas évolué en 5 ans ?
C'est un des problèmes du dépistage du cancer de la prostate, c'est que c'est un cancer d'évolution lente. Et quand on le dépiste, on ne peut pas du tout savoir si ça va être un cancer qui va rester quiescent pendant une quinzaine d'années et finalement pas évoluer, ou si ça pourra être une forme agressive. Et c'est pour cette raison que finalement le dépistage n'est pas véritablement généralisé comme on fait pour le cancer du côlon. Et l'assurance maladie ne relance pas les gens en disant « faites votre PSA ». Et donc c'est beaucoup à la discrétion des gens eux-mêmes, parce qu'ils en ont entendu parler dans la famille ou parce que dans le cercle des amis, il y a des gens qui ont eu le cancer de la prostate compte tenu du fait que c'est un cancer fréquent. Et en fait, c'est le rôle essentiel du médecin généraliste que de prescrire le PSA tout en expliquant ses limites.
C'est quoi les limites, donc ?
Ben, les limites, c'est que le dosage, il n'y a pas de chiffre absolu. Au-delà de 3, 5, 4, on commence à s'inquiéter. Mais on est dans la période où ça augmente déjà, même uniquement par l'hypertrophie naturelle de la prostate avec l'âge.
Ça veut dire quoi, 3, 5, 4 ?
Ben, c'est les dosages de PSA. Tous les gens qui en parlent se donnent des chiffres comme ça. Mais en plus, il y a des variations selon les laboratoires. Et si on doit être suivi, il faut prendre toujours le même laboratoire.
C'est important de le préciser.
Oui, c'est important de préciser et c'est important que ces taux soient véritablement interprétés avec le médecin traitant qui donne des indications sur la signification de ces taux de PSA. C'est un peu à cause de ça qu'il y a une dizaine d'années, aux États-Unis, on a commencé à se préoccuper de, finalement, trop de détection de cancer et des surtraitements. C'est-à-dire que dans l'idée, c'est qu'on faisait subir à un certain nombre d'hommes un traitement radical de prostatectomie, alors que c'était des cancers qui n'allaient pas évoluer. Mais comme au moment du dépistage, on ne peut pas le savoir, à partir du moment où on vous dit que vous avez un cancer, là, il y a eu un très bon suivi, 5 ans de suite, des IRM, bon, et finalement, l'intervention a eu lieu quand elle a été justifiée. Le problème, c'est qu'il faut pouvoir se faire opérer avant le stade des métastases, et pas trop tôt non plus, compte tenu du fait que c'est un cancer qui évolue lentement.
Michel Wittkock, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes anesthésiste réanimateur à la retraite et patient opéré de la prostate. Est-ce que votre histoire est également la même que François ou Georges ?
Alors d'abord, comme médecin, on est assez mal suivi.
Paradoxalement.
Paradoxalement, mais c'est une réalité. Il n'y a pas de médecine du travail, même j'étais en CHU. Et donc, finalement, c'est un peu laissé à la discrétion de chacun. Et moi, ce qui m'avait orienté, c'est que j'ai deux frères qui ont eu un cancer de la prostate. L'un qui a eu une radiothérapie, les choses se sont pas mal passées. L'autre qui a eu une radiothérapie, mais il y a eu un complément par chimio et hormonothérapie par la suite. Et 4 ans de traitement. Moi, j'étais assez sensibilisé. Donc, finalement, je vais voir un urologue. Dès que je commence à avoir un peu de troubles dysuriques, des difficultés à uriner, il me fait une échographie, puis il me dit « Vous avez un splendide adénome tout à fait simple de la prostate, on va faire des PSA, mais soyez pas inquiets, parce qu'ils ont tendance à pas vouloir que le PSA soit quelque chose qui inquiète inutilement les gens. » Et donc, un an se passe, et puis finalement, le PSA monte tout doucement. Alors, je finis par lui dire « Écoutez, moi... j'aimerais bien faire une IRM. » Alors d'emblée, il me dit, bon, IRM, si vous voulez, mais bon, puisque vous êtes très, très déterminé qu'il y a un facteur familial, bon, j'avais déjà plus de 65 ans, on va faire des biopsies. Puis là, mais vous inquiétez pas, je suis pas inquiet. Bon. Et puis, quand je le revois, là, il avait changé de couleur et il me dit, bon, les nouvelles ne sont pas bonnes. Vous avez 12 prélèvements sur 12 de positifs. Donc maintenant, il faut avancer rapidement. Bilan d'extension, prostatectomie radicale, le plus vite possible. Donc vous voyez, le problème des PSA, c'est que c'est un marqueur qui n'est pas absolu, qu'il faut absolument faire, mais qui doit être interprété en fonction du contexte clinique, en fonction de l'évolution, avec aussi un toucher rectal. Moi, pour moi, le toucher rectal était normal. Hein. Il n'y avait pas de... C'était un adénome tout simple pour eux. C'était simplement... Toute la glande était déjà atteinte par le cancer. Donc, j'étais aussi un peu surpris qu'on soit un peu, même avec des urologues, un peu quand même dans quelque chose qui m'apparaissait un peu flou.
Michel Wussner, en écoutant ces différentes personnes, un homme ne peut pas vraiment savoir concrètement s'il a un cancer de la prostate.
Une fois, c'est la combinaison de plusieurs éléments, effectivement de prélèvements sanguins, d'examens cliniques, éventuellement d'examens d'imagerie. En tout cas, il faut, je pense, effectivement en discuter. Et puis, c'est quelque chose de très individuel, on va dire. Il n'y a pas de copier-coller. On ne peut pas adapter tel protocole à chaque personne. Il faut prendre en compte tous ces éléments. Et effectivement, comme c'est un cancer qui évolue lentement, hormis certaines situations particulières, on a quand même toujours un petit peu le temps de réfléchir et de se poser les questions et de réévaluer. Voilà.
À partir de quel âge il faut se faire dépister ?
Alors là, encore, il n'y a pas de consensus, comme c'est pas un dépistage organisé au niveau national. En tout cas, avant 50 ans, ça semble ne pas avoir d'intérêt. Ça peut être intéressant, à partir de 50 ans, de faire un premier dosage de PSA, je dirais vers entre 50 et 60 ans. Voilà. Et en fonction de ce taux, on peut être amené à le répéter à une fréquence de tous les ans, tous les 2 ans. Enfin, voilà, ça se discute.
Ça se discute avec son médecin traitant.
Voilà.
Est-ce qu'il faut avoir plusieurs avis, son médecin traitant et un autre médecin, ou ça ne sert strictement à rien?
Ça dépend du contexte, mais dès lors qu'on a un doute, il vaut mieux effectivement prendre l'avis d'un spécialiste, qui en l'occurrence là est un urologue, qui a l'expérience et puis la possibilité de d'explorer les choses de manière plus approfondie.
Michel Witkock, ce cancer pour vous est toujours actif?
Ah non, la prostatectomie radicale a des effets secondaires et c'est pour ça qu'on ne veut pas pousser trop les gens à se faire opérer dès qu'on a, un diagnostic de cancer qui est à l'intérieur de la glande. Non, une fois que vous avez votre... Vous êtes uniquement sous surveillance par des PSA tous les 6 mois et qui doivent être totalement indosables, mais vous pouvez vous considérer comme guéri.
Georges Tarouf, même question.
Même réponse. Après l'opération, PSA 0 et pas de souci de récidive ou quoi que ce soit.
François Duliège, patient également opéré de la prostate, même question.
Après l'opération de la prostate et au moment de l'analyse de la prostate par le labo qui fait l'analyse au CHU, la prostate était complètement cancéreuse et des cellules avaient commencé à sortir de la coque de la prostate. Ce qui veut dire que j'avais un cancer très avancé. Donc j'ai un suivi particulier tous les 3 mois et je sais que dans les 3 ans qui viennent, les chances d'une récidive sont de 30%. C'est-à-dire qu'on n'est pas à zéro. Et dans 3 ans, je pourrais commencer à dormir un peu mieux. Mais pour l'instant, j'attends les résultats tous les 3 mois avec beaucoup d'impatience.
Michel Vosner, médecin sur l'Île-Dieu. Si un cancer de la prostate est diagnostiqué, comment est traité le patient?
Ça dépend du stade de la maladie. Il y a beaucoup d'options qui dépendent du stade de la maladie, effectivement, mais aussi de l'évolution, de la durée d'évolution, de l'état général, évidemment du souhait de la personne. On peut souvent proposer éventuellement plusieurs alternatives. Le traitement radical, si on envisage de guérir la maladie, c'est soit généralement la chirurgie ou la radiothérapie. Après, si on peut également temporiser, surveiller, ou alors, si la maladie est très évoluée, on peut, avec des traitements hormonaux, freiner, stabiliser, voire arrêter l'évolution du cancer.
Quelles conséquences sur la vie d'un patient de tous les jours, ces traitements ? Contre le cancer de la prostate?
Oui, donc...
Michel Witkock, par exemple.
Un des effets secondaires le plus radical de la prostatectomie, c'est qu'en fait, on vous retire le sphincter qui est lisse, qui assure l'étanchéité. Et donc, un des effets secondaires le plus fréquents, c'est les problèmes d'incontinence urinaire. Ces choses sont, enfin, ce type de situation de perte urinaire peuvent être assez bien contrôlées par déjà un entraînement type rééducation du sphincter au niveau du périnée, mais cette fois-ci le sphincter strié, c'est-à-dire sous l'effet de la volonté, et savoir gérer correctement ces risques de perte urinaire qu'on peut avoir lorsqu'on fait un effort, lorsqu'on tousse, lorsqu'on soulève quelque chose de lourd. Donc il y a tout un entraînement psychique à avoir pour éviter ce type de situation où vous risquez de vous mouiller. Donc les incontinences sont à peu près de l'ordre de 50%, mais pas de manière importante dans la première année qui suit la prostatectomie radicale. Et puis après, les choses s'améliorent nettement. L'autre effet secondaire, dont les hommes ont un petit peu plus de mal à parler, c'est le problème de l'impuissance érectile. C'est-à-dire que ça ne fonctionne plus comme avant. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est beaucoup plus fréquent. Et c'est aussi quand même fortement lié à l'âge et pas uniquement au cancer de la prostate. Et il y a des possibilités d'améliorer la situation. Ça passe par des traitements vasodilatateurs, que ce soit le sildénafil, c'est donc le Viagra, ou le Cialis, le tadalafil. Et puis, soit pour les gens qui sont très, très préoccupés, ça peut être des injections de prostaglandine dans le corps caverneux. Mais enfin, c'est beaucoup de manipulations. Bon, chacun se débrouille un peu avec ce type de situation, mais c'est vrai que c'est un peu ça qui était dans l'idée de faut éviter les surtraitements.
Michel Vosner, en France, quel est le taux d'hommes atteints par le cancer de la prostate ?
Alors, donc, c'est le cancer le plus fréquent chez l'homme. Effectivement, comme maintenant, c'est peut-être un peu moins diagnostiqué parce que le PSA est un peu moins fait. Actuellement, il y a environ 50 000 nouveaux cas diagnostiqués par an. Donc, ça représente 25% quand même des cancers de l'homme. Hein. C'est loin devant les autres cancers. L'âge moyen de diagnostic est autour de 65 ans. Oui, 65 ans. Et par contre, comme c'est un cancer qui est quand même plutôt de bon pronostic, avec des possibilités de guérison ou de stabilisation de la maladie sur des périodes très prolongées, c'est la troisième cause de mortalité par cancer chez l'homme seulement, avec 8000 décès par an. Donc vous avez 50 000 nouveaux cas et 8000 décès par an. Il y a quand même, on peut quand même faire beaucoup de choses.
Michel Vosner, toujours médecin, soyez-le un dernier mot avant de se dire au revoir.
Parlez-en avec votre médecin traitant.
Michel Witkoc, anesthésiste, réanimateur à la retraite et patient opéré de la prostate. Un dernier mot avant de se dire au revoir.
Oui, alors pour ce qui concerne le dépistage, pour bien clarifier les idées, normalement ça doit commencer à 50 ans et ça s'arrête à 75 ans. Mais quand vous avez des antécédents familiaux, que ce soit du cancer de la prostate, mais aussi du cancer du sein dans votre fratrie élargie, même la génération d'avant, il faut envisager de démarrer les dosages de PSA vers 45 ans.
C'est important de le préciser. Georges Darrault, patient opéré de la prostate, un dernier mot avant de se dire au revoir.
Eh bien, je pense que c'est un sujet qu'il faut surveiller quand on arrive à l'âge, effectivement, qui vient d'être évoqué. Mais il faut se prendre en charge soi-même souvent, parce que on n'est pas toujours guidé sur le sujet.
François Duliège, patient également opéré de la prostate, un dernier mot avant de se dire au revoir.
Oui, une petite anecdote. En novembre, j'ai rencontré, dans le cadre d'une association de malades du cancer de la prostate, un homme de 60 ans qu'on va appeler Olivier. Olivier avait eu deux médecins traitants, un qui était parti à la retraite, puis un médecin qui l'a remplacé. Et aucun des deux médecins ne lui a jamais parlé du dosage de PSA.
Pourquoi ?
Parce que, simplement, les médecins ont estimé qu'ils n'avaient pas en parler, ou je n'ai pas d'explication, mais toujours est-il qu'ils n'avaient aucune conscience de la nécessité de faire des dosages de PSA. À 59 ans, il a commencé à avoir des douleurs de hanche et à la suite d'un certain nombre d'examens, il s'est rendu compte que ces douleurs étaient des métastases liées à un cancer de la prostate très avancé. Il avait un cancer de grade 9 et il n'y a pas de grade plus élevé que 9. Autant dire qu'il était inopérable parce qu'il y avait déjà des métastases un peu partout. Et en un an, il a subi deux hormonothérapies, une chimiothérapie, des traitements de rayons. Et quand j'ai rencontré Olivier à 60 ans, il avait plutôt l'air de quelqu'un de 75 ans. Et il m'a dit d'une petite voix, « Tu sais François, j'en veux beaucoup à mes médecins parce qu'aujourd'hui, mon espérance de survie à 5 ans, c'est-à-dire à 65 ans, est d'une chance sur deux. C'est-à-dire que j'ai une chance sur deux de ne pas être là à 65 ans. » Et si je passe cette anecdote très, très austère et très sérieuse, c'est pour passer le message que votre vie vous appartient, votre peau, c'est la vôtre, c'est à vous de vous prendre en main, c'est à vous de dire à votre médecin « je veux des tests de PSA ». S'il refuse de le faire sans raison valable...
D'ailleurs, est-ce qu'il peut le refuser ?
Oui, je ne vois pas de raison de le refuser, non ?
Sauf peut-être un homme de 35 ans. Qui, oui. Voilà. Mais, oh, oui. Mais si vous êtes dans la tranche d'âge des 50, 75 ans, que le médecin refuse, parce qu'il y en a qui sont, pour des raisons quasi religieuses, pas adeptes du PSA, moi, je vous conseille de commencer par lui casser la figure et de changer de médecin.
Non, on ne peut pas dire ça. Non, il faut changer de médecin.
Il faut changer de médecin, mais si vous voulez, Olivier, dont je viens de vous parler, qu'est-ce que vous pensez qu'il pense des deux médecins qui ne lui ont jamais ouvert les yeux et qui l'ont mis dans l'antichambre de la mort.
Michel Vosner, pourquoi ces médecins étaient contre ?
Alors, l'histoire ne dit pas s'ils étaient contre, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui Et un peu tabou aussi, c'est pas un sujet de société, on va dire, donc les gens sont pas forcément très alertés là-dessus. Il y a eu une période, effectivement, où on avait tendance à dire qu'il fallait plus du tout surveiller le PSA. Enfin, il y a une espèce d'incertitude par rapport à ça, mais je pense que, voilà, autant au niveau collectif, c'est difficile de dire il faut faire ça, autant au niveau individuel, je pense que c'est important d'en discuter et de faire ce dosage régulièrement si c'est nécessaire.
François Duhaye, un dernier mot peut-être.
Je voudrais peut-être juste rajouter le fait qu'il y a une énorme différence entre la population des femmes qui s'est battue pour la prévention du cancer du sein, qui a considérablement réduit le nombre de morts dans ce cancer-là, et il y a énormément de similitudes entre le cancer du sein et celui de la prostate. Les taux de cancer sont à peu près les mêmes. Les taux de mortalité sont plutôt plus forts chez les hommes parce que les femmes ont milité très tôt pour un dépistage et un suivi des cancers du sein qui évitent les surtraitements. Les hommes n'en parlent pas. Les hommes font une sorte d'omerta sur ce problème.
C'est un sujet tabou, quoi.
C'est un sujet tabou et je pense qu'il faut le mettre sur la table. Il faut que chacun se prenne en main parce que collectivement, je crois que les hommes auront beaucoup de mal à faire ce que les femmes ont fait. Mais il faut que les gens se prennent en main et prennent leur vie en main sur ce sujet.
C'est pour ça que vous étiez là pour en parler aujourd'hui. Merci à vous quatre d'être venus sur Neptune FM. À très bientôt.